Le monde en partage. Radio Centre-Ville. Thibaut Temmerman.
Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur Radio Centre-Ville. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de nous écouter cet été, je vous souhaite la bienvenue dans cette demi-heure consacrée à l'actualité internationale où acteurs et experts viennent nous partager leur expérience et leur analyse sur une région, un pays, un enjeu transnational. Au cours des 8 précédentes émissions, nous avons ainsi eu l'occasion de partir au Brésil ou en Croatie, mais aussi de nous interroger sur la vitalité de la francophonie ou la mobilisation pour les droits de la personne. Pour les habitués, c'est toujours un plaisir de pouvoir poursuivre cette expérience avec vous sur les ondes du 5FM. Il est possible que la formule de l'émission évolue légèrement par rapport à cet été, mais nous gardons l'essentiel avec un sujet principal pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et des musiques d'ici et d'ailleurs. Alors, rentrée oblige, je vous propose de parler d'école et d'éducation. Il y a sûrement parmi vous de jeunes parents qui se demandent comment leur enfant va réagir face à cette première journée. Va-t-il ou elle pleurer ? Certains d'entre vous sont peut-être très intéressés par les débats sur les méthodes d'apprentissage, la question de l'autorité du professeur. Alors, sans vouloir être misérabiliste, nous sommes bien conscients que tous les enfants de la Terre n'ont pas cette chance-là, que certains doivent parcourir des kilomètres pour pouvoir aller à l'école, ou un seul maître enseigne à des classes de plus de 50 élèves, tout niveau confondu, et que dire de ces jeunes filles qui, comme Malala Yousafzai au Pakistan, risquent leur vie pour lutter pour leur droit à recevoir une éducation ? L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, indique ainsi qu'en 2013, il demeure encore 775 millions d'adultes qui ne possèdent pas les compétences de base en lecture et en écriture, soit 17% de la population mondiale. Et sur ces 775 millions, les deux tiers sont des femmes, ce qui, précise l'UNESCO, complique considérablement la réalisation de l'objectif de l'égalité des genres. Le nombre de jeunes ne disposant pas d'une éducation élémentaire suffisante est estimé à 122 millions, dont la moitié qui n'est pas scolarisée. Pour autant, point de misérabilisme, disais-je, car si les moyens manquent parfois, les ressources humaines et la créativité humaine pour accéder à l'éducation sont grandes, comme nous allons le voir avec notre invité que j'ai le plaisir d'avoir en ligne depuis Rimouski. Lucille Roy, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes coordinatrice de l'organisme formation clé Mitis Neget à Rimouski, mais également coopérante volontaire en alphabétisation. Et à ce titre, vous vous êtes rendue au Sénégal en 2009 pour accomplir un mandat de coopération en alphabétisation, une opération qui a été rendue possible grâce au partenariat entre le regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, le RGPAC, où vous siégez par ailleurs, et AlphaDev, une ONG sénégalaise partenaire en alphabétisation. Alors je voudrais tout d'abord que vous me parliez de votre expérience justement. Était-ce la première, la seule fois où vous êtes rendu là-bas?
C'était ma première mission. J'étais accompagnée de Madame Martine Filion, qui elle était à sa quatrième ou sa cinquième mission en Afrique. Quelques-unes, je crois, au Niger, et les autres étaient au Sénégal. On a passé le mois de septembre 2009 en terre sénégalaise. Et pour moi, c'était ma première expérience de mission. J'en rêvais depuis longtemps, mais c'était une première pour moi et ce fut une expérience, je dirais, très enrichissante et très valorisante. Je crois que je suis allée chercher davantage que j'ai pu y apporter finalement.
C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre part à ce projet?
Le projet est né en 2005 lorsque le CECI a pris contact avec le RGPAC. Dans le cadre d'UNITERRA, pour justement établir des partenariats d'échange au niveau de l'éducation, parce que c'est ce qui manquait beaucoup. Il y avait plein de choses au niveau social, au niveau économique, mais au niveau éducation et je dirais éducation non formelle, il y avait très peu de choses de développer. Et donc, le RGPAC a répondu oui au CECI, en autant que les organismes faisant partie du regroupement soient intéressés et trouvent leur compte, mais aussi puissent participer participer activement. Et donc, c'est à ce moment-là que le RGPAC a fait une tournée provinciale pour savoir quels étaient les groupes. Parce que je n'y allais pas en tant que personne, mais je n'y allais en tant plus comme responsable d'un groupe d'alphabétisation populaire du Québec. Et c'était ça qui était demandé du RGPAC. Et j'ai tout de suite donné le nom de notre organisme en 2005. Et on était à peu près 4 ou 5 à ce moment-là qui avaient démontré de l'intéressement. Et c'est à partir de là que, tranquillement, on a mis le comité sur place, le comité de travail Québec-Sénégal. Et j'ai attendu mon tour, j'ai dû attendre 3 ou 4 ans, oui, 4 ans, donc de 2005 à 2009, avant de pouvoir partir pour une première mission. Mais c'est un rêve que je caressais depuis, je vous dirais, mon adolescence.
Donc on voit que c'est quelque chose qui est bien organisé. Quel est le rôle des coopérants internationaux sur place? Je suppose qu'il ne s'agit pas seulement de ramener du matériel scolaire.
Je vous dirais que très peu. Vous savez que quand on voyage, on peut pas se permettre de voyager avec de nombreuses valises et contenants. Donc, les bagages étant restreints, c'est pas nécessairement beaucoup de matériel, mais c'est plus des échanges au niveau des savoir-faire et des savoir-être qui sont partagés de part et d'autre. Je dirais qu'il y a 25-30 ans, même il y a encore une vingtaine d'années, quand on parlait de missions aux étrangères dans le temps, c'était vraiment le Nord qui débarquait au Sud avec ses savoir-faire et comment tout faire, mais on tenait peu compte des moyens et des gens qui étaient sur place, puis ce qu'il y avait entre les mains, les outils et tous les moyens de développer. Selon moi, le taux d'échec était peut-être un peu plus élevé à ce moment-là, alors que maintenant, ce sont vraiment des échanges. Le Nord débarque plus au Sud, mais c'est bien. C'est alternatif, c'est-à-dire que le Sud vient au Nord donner ses expériences, ses savoirs et savoir-faire, justement, et on fait un peu la même chose. Donc, c'est vraiment des échanges des deux côtés. Et c'est, je pense, là, toute la richesse.
C'est très important ce que vous dites là, car quand vous arrivez sur le terrain, votre apport, il est bien perçu. Ce n'est pas simplement, comme vous dites, le Nord, les pays développés qui viennent apporter les lumières au continent africain. Qu'est-ce que vous apportez? Vous parlez de méthodes. Donc, ce sont des méthodes d'enseignement, c'est cela?
Des méthodes, des approches. Des fois, c'est des programmes. Pour ma part, j'ai participé il y a peut-être une dizaine d'années à une étude avec l'Université du Québec ici à Rimouski sur le développement des compétences parentales. Et être parent, que ce soit au Québec ou que ce soit au Sénégal ou ailleurs, il n'y a pas de livre d'instruction, on devient parent du jour au lendemain et on apprend. Donc, il y a des façons de faire avec nos enfants qu'on peut mettre en pratique. Que ce soit ici ou que ce soit à Dakar, on peut les faire. Et c'est un peu ça qu'on est allé. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai fait quand je suis allée en mission en 2009. Je suis partie avec le programme qu'on avait développé ici dans le Bas-Saint-Laurent qui s'intitule « On découvre les criches têtes pour la vie » avec une équipe de chercheurs de l'UQAR. Et nous, on l'avait appliqué avec des groupes qui nous ressemblent, donc les groupes d'alphabétisation ici, dans les petites paroisses, dans les villes, et c'était des petits groupes de 6 à 10 personnes. On voulait transposer ça, mais faut tenir compte des réalités sénégalaises, c'est-à-dire que les cercles réflexes qui sont majoritairement composés de femmes sont souvent accompagnés de leurs tout-petits, les bébés qui sont encore au sein ou qui sont très jeunes sont avec leur maman. On se disait, ben c'est l'endroit rêvé pour appliquer un tel programme. Les enfants sont déjà sur place. Nous, au Québec, c'est comme un plus qu'on demande aux parents, apportez votre enfant, amenez votre enfant avec vous. Alors qu'au Sénégal, ça se fait naturellement, on se disait, c'est une terre fertile pour ce programme-là. Donc, moi, c'est de cette façon que je suis débarquée. C'est avec l'expérimentation du programme, on découvre les criches têtes pour la vie, qu'on a expérimenté des choses avec eux et leur permettre de suivre par la suite, de poursuivre avec d'autres cercles réflexes ou d'aller un peu plus loin avec leur façon de faire, leurs moyens et leurs outils qu'ils ont déjà en place. Le petit obstacle qu'on y voyait autant du côté du Québec qu'eux au Sénégal, c'était le nombre, parce qu'ils sont en grand nombre. Les cercles sont rarement plus petits que 20 et parfois ça va jusqu'à 40 ou 50 femmes. Donc, c'était là qu'il fallait qu'ils réajustent un petit peu les activités et voir peut-être à faire des petits sous-groupes. Donc, c'est ce qu'il y avait à travailler par la suite, mais tout le matériel, on l'avait avec nous et on leur a laissé sur place pour qu'ils puissent le reproduire ou s'en servir.
Donc, on comprend bien, en fait, on parle d'éducation, d'alphabétisation, cela concerne aussi bien les enfants que les adultes et ça se passe donc différemment puisque les cercles sont, vous le disiez, plus grands. Effectivement, dans le cas du Sénégal, quels sont les principaux obstacles à cette éducation, à l'alphabétisation? Est-ce que ce sont d'ordre géographique parce que les villages sont isolés? Est-ce que c'est matériel, économique?
Je vous dirais que c'est le plus gros obstacle, c'est un peu partout, même ici au Québec, mais il est encore plus criant au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment le financement. Les gens sur place de ce que j'ai constaté et les autres missions avant la nôtre ont constaté, c'est qu'ils ont beaucoup de créativité, sont très créatifs, très inventifs, mais ce sont les moyens financiers qui leur permettent pas de mettre de l'avant les projets et les belles idées qu'ils ont. C'est là-dessus qu'on essaie de travailler le plus, qu'on essaie de leur trouver des solutions qui sont tangibles pour eux et qui demandent pas beaucoup de financement. Je peux peut-être vous donner un exemple très concret.
Je vous en prie.
Deux ans avant qu'on aille au Sénégal, Martine et moi, donc en 2007, une délégation sénégalaise est débarquée ici au Québec et ils ont assisté, entre autres, à des ateliers à Pointe-Saint-Charles, à Montréal, dans un organisme, où ils ont vu que les jeunes adultes, les jeunes personnes en alphabétisation dans ce groupe, travaillaient le vitrail et vendaient les produits pour autofinancer justement le groupe et leurs prochains ateliers. Donc, ils se sont dit, on va essayer de transposer la même chose au Sénégal. Mais on n'a pas la matière première, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le vitrail. À ce moment-là, ils sont allés plus vers les tissus et on sait qu'ils produisent de beaux tissus, font de beaux batiks. Donc, ils ont décidé de partir une petite entreprise où on travaille le tissu et on a offert à Diosang, entre autres dans le sud du Sénégal, des ateliers pour des jeunes filles de 15 à 25 ans, si je me souviens bien, qui apprenaient la couture, qui travaillaient le tissu et qui, au bout de 3 ans là, de leur formation, on leur demandait justement de se démarrer une petite entreprise de couture pour transférer leurs connaissances à d'autres jeunes filles comme elles, finalement. Donc, c'est un peu ces projets-là qui peuvent se faire, c'est-à-dire des projets qui demandent peu de ressources financières et qui utilisent les matières premières qu'ils ont à portée de main et qui sont faciles pour eux là, d'avoir.
On va poursuivre cette discussion. Et pour l'émission de ce jour, je vous ai préparé une sélection musicale presque à 100% sénégalo-québécoise. On commence tout de suite avec un ancien du groupe Les Colocs, Karim Diouf. Et voici « Juste pour prouver que j'existe ».
J'ai faim, j'ai soif, j'ai rien à manger. Mais ça me prend rien que quelques sous pour manger, boire, rester en vie. Souhaiter que demain soit meilleur. La vie se passe sans moi. Elle n'est pas supposée d'être comme ça. Ma vie sans moi, je peux pas l'imaginer. J'irai prouver que j'existe. J'irai prouver que j'existe. Il y a du monde partout devant nous qui disent n'avoir rien vu ou qui font semblant de ne rien voir. Trop occupés à faire leur vie. J'irai leur prouver que j'existe. Juste pour me prouver que j'existe. Mingi melni dañu fatte. 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 Je changerai de passeport pour un monde meilleur. Avoir le droit d'aller où je veux sans me faire poser de questions. Dans tous les aéroports, je serai canadien, américain, brésilien, australien, français, sénégalais, burkinabé. Être citoyen du monde juste pour leur prouver que j'existe. Il y a du monde partout devant nous qui disent n'avoir rien vu ou qui font semblant de ne rien voir. Trop occupés à faire leur vie, j'irai leur prouver que j'existe. Juste pour me prouver que j'existe. Nous n'y mêlons de nos fatigues, nous n'y mêlons de nos fatigues. Mingi melni dañu fatte. Mingi melni dañu fatte. La vie n'est pas facile quand on est sans le sou. La vie n'est pas facile quand on est sans famille. La vie n'est pas facile quand on est sans appui. C'est comme si on n'était pas là, comme si on comptait pas. C'est comme si on n'existait pas, non, 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 non. Comme si on n'était pas là, comme si on comptait pas. C'est comme si on n'existait pas. Na, 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 na. C'est comme si on n'était pas là. Comme si on comptait pas. C'est comme si on n'existait pas. Oh, 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 oh. C'est comme si on n'était pas là. Comme si on comptait pas. C'est comme si on n'existait pas.
Bien à l'écoute du 5FM et Le Monde en Partage, on écoutait Karim Diouf et sa chanson « Juste pour prouver que j'existe », extraite de son premier album solo « Aduna ». On parle aujourd'hui des enjeux de l'alphabétisation et de l'éducation dans les pays en développement et j'ai avec moi en ligne Lucille Roy, qui est notamment membre du comité Québec-Sénégal au sein du regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, le RGPAC. Alors vous me disiez tantôt, et c'était très important, que ces programmes en alphabétisation, en éducation, cela se fait sur la base de l'échange. De vous, de votre côté, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement? Je pense beaucoup sur le plan humain, mais également professionnellement. Qu'est-ce que vous avez pu recevoir en retour?
Je vous dirais qu'on reçoit autant, sinon plus, qu'on peut apporter parce que on est en échange, on est avec des gens, des personnes, des ressources humaines qui ont un bagage énorme, qui doivent faire. On se plaint souvent au Québec, bon, qu'on manque de financement, que bon, notre territoire est grand. Et quand on débarque au Sénégal, quand on débarque en Afrique, on s'aperçoit que nos problèmes deviennent si minimes comparés à eux. On vit un peu les mêmes choses, effectivement, mais je dirais quintuplés dans leur milieu. Donc, il faut qu'ils travaillent avec des moyens qui sont très, très restreints, peu de financement. Ils ont des longues routes à parcourir. Les femmes qui viennent au cercle de lecture, nous, on dit qu'on a des problèmes de transport. Mais on a des transports, eux et elles en ont pratiquement pas. Donc, des fois, ils se déplacent sur 2, 3, 4, 5 kilomètres pour assister à un cercle réflexe. Donc, c'est ça aussi qu'on apprend. Comment se fait, comment se réalise toute leur alphabétisation sur le terrain comparé à la nôtre. Et on partage aussi beaucoup au niveau des approches. Nous, quand on est débarqué au Sénégal, l'émission, on voulait s'approprier l'approche réflexe, qui est une approche qui est basée sur l'approche conscientisante de Paulo Freire, donc qui colle un peu à notre, qui colle un peu, je dirais même beaucoup, au fonctionnement et à l'approche qu'on préconise, la philosophie de l'alphabétisation pour les groupes du regroupement.
Oui, est-ce que vous pouvez développer cette méthode?
Donc, ces principaux apprentissages-là qu'on a fait, on a deux formatrices qui sont allées dans une mission, la deuxième mission, qui sont devenues elles-mêmes des formatrices sur le terrain et qui ont offert les formations là, un peu dans tous les organismes du Québec sur l'approche réflexe. Comment arrimer nos différentes approches et nos différentes pratiques en alphabétisation à partir de ce qui se fait au Sénégal et un peu partout, je vous dirais, dans les pays d'Afrique de l'Ouest et même d'Amérique latine. C'est une approche qui est très répandue là, depuis les 15-20 dernières années, cette approche. Elle part du vécu des gens, vraiment leurs problématiques, ce qu'ils vivent dans le quotidien. Et on les amène à réfléchir sur justement le problème, sur des pistes de solutions et comment ils peuvent devenir les propres agents de changement dans leur vie. Donc, c'est ça, être conscientisé finalement au niveau de l'alphabétisation.
Oui, en effet, car au-delà des enjeux de la littératie, cette éducation, dans certaines régions du monde, cela signifie également l'accès à des connaissances dont certains groupes de personnes peut-être étaient jusqu'à présent exclus pour pouvoir leur redonner une forme d'autonomie. Je pense bien entendu aux jeunes filles. Est-ce que vous mesurez cela sur place, les conséquences de cette éducation sur, par exemple, les jeunes femmes?
Oui, on a pu le constater, elles s'investissent beaucoup. Elles sont de plus en plus nombreuses. On ne voit pas juste que des mamans, mais beaucoup de groupes, que ce soit à Dakar, que ce soit dans le sud, à Diosan, on s'aperçoit que les jeunes filles de 15, 18, 20, 25 ans, qui sont des jeunes filles qui sont pas mariées encore, s'intéressent à l'apprentissage, que ce soit la couture, que ce soit l'apprentissage du français. On a assisté à un atelier de francisation auprès de jeunes filles à Dakar. Ce sont des jeunes filles qui décident de prendre en main leur propre destinée. Ils veulent apprendre un métier, ils veulent partir une petite entreprise pour pouvoir vivre, pouvoir s'accomplir comme personne d'abord. Ça, on a pu le voir directement sur le terrain. Et des jeunes filles qui ont reçu probablement leur premier diplôme, entre autres en francisation. C'est quand même très extraordinaire. Puis on a été présentes, Martine Filion et moi, et on a assisté à ce premier diplôme de ces jeunes filles-là qui parlaient un dialecte sénégalais quelconque et qui ont appris le français durant une période de 12 à 18 mois en suivant 2 à 3 ateliers par semaine. On les faisait pratiquer sur informatique, sur l'ordinateur. Donc, c'était comme une double formation et je crois que c'était très enrichissant pour elles.
C'est important ce que vous dites là, car même si l'analphabétisme recule, malgré tout, l'écart s'agissant de l'accès à la connaissance entre les populations des pays développés et celles dans les pays en développement se creuse en raison de l'inégalité d'accès aux nouvelles technologies. Je disais en introduction que nous évoquons un sujet d'actualité, et il l'est doublement puisque la rentrée des classes a eu lieu dernièrement, mais qu'en plus, le 8 septembre aura lieu la journée internationale de l'alphabétisation. Alors, à vos agendas, car à Montréal, un événement sera organisé par le RGPAC en collaboration avec l'Atelier des Lettres. Mais cet événement aura lieu le vendredi 6 septembre au matin, donc 2 jours avant la date officielle, à l'Écomusée du Fier Monde. De votre côté, Lucille Roy, est-ce que vous organisez quelque chose à Rimouski?
Chez nous, c'est la rentrée officielle aussi. On a des publicités, on participe souvent à des entrevues à la radio, justement pour parler de la problématique de l'analphabétisme, non pas seulement ici dans nos milieux, mais un peu partout à travers le monde. Il y a des gens qui vivent cette problématique et on essaie d'apporter un petit peu, une petite goutte d'eau dans ce vase là, pour permettre aux différents participants et participantes de s'épanouir puis de reprendre leur vie en main. C'est le message là, qu'on essaie de passer lors de la journée du 8 septembre.
Et du coup, pour ceux qui voudraient œuvrer en faveur de l'alphabétisation dans les pays en développement, qu'est-il possible de faire?
Il y a des gens qui ont peut-être le goût de vivre la même expérience extraordinaire que j'ai vécue, donc ils peuvent se renseigner auprès du CECI et même aller voir sur leur site au www.ceci.ca ou voir les programmes Unitera qui permettent justement d'envoyer des volontaires en terre africaine et de recevoir des Africains aussi en terre québécoise. Donc, vous allez au www.unitera.ca pour justement voir ce qui se fait et ce que le programme permet aux volontaires de pouvoir vivre comme expérience.
Vous-même, est-ce que vous allez retourner prochainement au Sénégal?
Prochainement, j'espère bien. Sinon, c'est un projet de retraite avec mon conjoint où on aimerait faire une double mission en couple. C'est mon projet là pour les prochaines années.
Alors, je vous souhaite beaucoup de réussite et d'inspirants échanges lors de votre nouveau mandat de coopération internationale. Et surtout, merci beaucoup, Lucille Roy, de votre disponibilité en cette longue fin de semaine.
Merci à vous et au plaisir et bonne journée de l'alphabétisation.
On poursuit notre exploration musicale sur les terres sénégalaises avec Zal Sissoko.
Natan Casamansa, oui, Casale, va la santé diante, na la santé diante. Non, non, te banage, yeke te banage, oui, Natan Casa, to de Wenizare Sukabe. Natan Casamansa, oui, Casale, va la santé diante. Na la santé diata, na hol la santé diata. Na tan no kaza, oui, na no kaza. Kodo weni sare sukabe. Babina baina kaza di mansawu, kaza le. Babina baina kaza di mansawu, kaza le. Na la sante diata, fa la sante diata. Nono te banage, keke te banage. Wai ngatanu kaza, kodo weni sare sukabe. Amaduri jalo, yen fula do kwalga. Bambo sinyate nyo, nyata nukwalda fula do.
babina baina kazali mansawu kazale babina baina babina baina kazali mansawu kazale natanu kaza natanu kaza kelo lebantaje natanu fulado wi natanu kaza kodo woni sare sukabe tumani sidibe natanu kola isman rave natanu fulado mitala kolda kolda natanu kolda mitala kolda babina baina kazadi mansawu kazale kala sati diata nala sati diata nono te banaje keke te banaje wei natanu kaza kodawa nisara sukabe
À cette heure-ci, vous devriez retrouver la revue de presse d'Aline Zalé, mais il se trouve qu'Aline est repartie en Europe. Alors nous aurons, je l'espère, l'occasion de la réentendre prochainement sur les ondes de Radio Centre-Ville. Mais puisque je n'ai pas eu le plaisir de le lui dire au cours d'une dernière émission, qu'elle sache que sa collaboration a été particulièrement appréciée durant cet été. Merci encore Aline. Je profite également de ce temps d'antenne pour remercier le Centre d'études et de coopération internationale, le CECI, pour m'avoir mis en relation, pour cette émission, avec le regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, le RGPAC, et notamment donc notre invitée de ce jour, Lucille Roy. Et chaque année, le CECI envoie plus de 400 volontaires à travers le programme de coopération volontaire Unitera, qui était mentionné par notre invité, et ça se fait en collaboration avec le UMC, l'Entraide Universitaire Mondiale du Canada. Merci à eux tous de contribuer à l'alphabétisation dans le monde. Ceci met donc fin au Monde en Partage pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les références concernant cette émission sur notre site internet lemondeenpartage.wordpress.com. Je vous rappelle enfin que cette émission est réécoutable en ligne ou en balado-diffusion. C'était Thibaut Temmermann à la réalisation. Merci encore à notre invité de ce jour, Lucille Roy, ainsi qu'à l'équipe de Radio Centre-Ville pour la confiance dont ils m'ont témoigné et qui me permet donc de poursuivre cette exploration du monde qui nous entoure en votre compagnie. Vous retrouverez tout de suite le magazine Centre-Ville. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission sur Deutschland. Eh bien oui, il sera en effet question de l'Allemagne. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine sur Radio Centre-Ville. Je vous laisse avec un dernier artiste d'ici, originaire du Sénégal et plus précisément de sa capitale, Dakar. Voici donc Karim Ouellet et Triangle, le premier titre de son album Plume.
J'ai dépassé les coureurs qui vous couraient bien mal. Tombé dans le piège comme une bête sauvage. D'un soir, j'ai le cœur qui pince. Touche à mon cœur, ça me frappe pas, ça me frappe mal. T'entendre chanter quand simplement, simplement. J'aime que l'on s'aime un peu plus spécial.
en triangle d'un soir. J'ai le cœur qui passe et juste prendre la chance qui passe dans nos cœurs qui passent.